Bonsoir Malinoton. Nous sommes très heureux de vous souhaiter la bienvenue.
Et vous, jamais pendant le service, je crois.
Jamais. Bonsoir mesdames et messieurs, donc bienvenue à Malinoton, à la librairie Mola, devant vos fidèles lecteurs bordelais et autour de Bordeaux, bien sûr, très loin même autour de Bordeaux. Que de chemin parcouru depuis 1992, depuis l'hygiène de l'assassin, depuis les différents prix que vous avez remportés, et avec la régularité qui vous caractérise, nous voici à la 25e publication, votre 25e roman, Ricky à la houppe, toujours chez Albin Michel, soyons fidèles.
Un grand cas de fidélité, je vous défie de trouver un auteur de best-seller aussi fidèle que moi.
Voilà. Et donc une œuvre traduite dans 40 langues, vendue à des millions et des millions d'exemplaires, et la soirée d'aujourd'hui ne le démentira pas. Vos livres s'arrachent comme des petits pains, pas au chocolat.
Oui, j'ai cru comprendre qu'on n'avait plus le droit de plaisanter sur ce sujet.
Je crois. Alors, Ricky à la houppe, là encore, vous aviez écrit Barbe bleue il y a quelques années. Vous revisitez un conte de fées. Et donc, pour quelle raison un conte de fées?
C'est pas n'importe quel conte de fées, c'est les contes de Perrault. J'aime particulièrement les contes de Perrault parce que Perrault a le talent de parler des choses les plus graves, sans aucune concession à l'horreur, sans aucun culte du happy end. C'est comme si les contes, et en particulier ceux de Perrault, étaient le dernier prétexte aujourd'hui pour parler de sujets abominables sans que ça fâche personne. Donc c'est formidable parce que ça parle de la vraie vie. Nous sommes tous assez adultes, même les plus jeunes d'entre vous s'en sont rendus compte, pour savoir que la vie est horrible. Mais en même temps, nous savons tous que c'est pas grave. Finalement, on s'en sort très bien. Pour moi, c'est ça la vraie morale de tous les contes de Perrault. Le même conte est raconté et par les frères Grimm et par Perrault. C'est le petit chaperon rouge. Dans la version des frères Grimm, un chasseur vient libérer le petit chaperon rouge du ventre du loup à la fin du conte. Dans la version de Perrault, le petit chaperon rouge reste dans le ventre du loup, donc ça a l'air beaucoup plus grave a priori, mais la morale de Perrault, si c'est pas si grave, ben, oui, on peut finir manger, mais on s'en sort très bien quand même. J'adore cette espèce d'esprit français qui fait qu'on peut passer au travers de toutes les tragédies sans que ça présente aucune gravité.
Et là, en l'occurrence, c'est assez exceptionnel parce que ça finit bien.
Oui, alors, le conte de Perrault, beaucoup de gens ne savent pas que Ricky à la houppe est à la base un conte. Je pensais que c'était aussi connu que Barbe bleue, mais pas du tout. Beaucoup de gens m'ont dit, mais qu'est-ce que c'est Ricky à la houppe? C'est pas plutôt Ricky à la houppe, vous savez, le héros de banlieue là? Non, Ricky à la houppe est un conte de Perrault qui finit bien. C'est l'un des rares contes de Perrault qui finissent bien. Mais rassurez-vous, ça commence très mal. C'est l'histoire d'un prince d'une laideur exceptionnelle qui s'éprend d'une princesse d'une beauté sans nom, mais d'une bêtise innommable. Donc, ils ont tous les deux leur casserole, ils traînent tous les deux leur casserole, mais ça s'arrange. Et c'est ce que j'adore aussi chez Perrault, c'est qu'il ne nous épargne rien. Il ne nous épargne rien des tragédies personnelles des personnages. Il sait que la laideur extrême est très mal vécue, il n'y a pas de doute. Être très laid, ce n'est pas un cadeau. Il sait que l'extrême beauté est inévitablement taxée de bêtises profondes. Donc, ça se passe très mal aussi. Donc, quand nos deux personnages se rencontrent, ils ont tous les deux beaucoup souffert. Ils sont tous les deux au bord du suicide. Mais ils se rencontrent et il y a le coup de foudre. Pourquoi? Parce que, somme toute, ils ont vécu la même chose. L'extrême laideur a vécu la même chose que l'extrême beauté. Ce sont des exclus. Et deux exclusions trouvent beaucoup de choses à se dire. Et alors là, évidemment, ça devient tarte à la crème parce que c'est le miracle de l'amour. Mais vous savez, le miracle de l'amour, ça existe. Nous sommes quelques-uns à en avoir témoigné. C'est pas fréquent, mais ça peut exister.
Et d'ailleurs, dans les mésaventures des deux personnages, les exclusions des deux personnages, l'amour joue un grand rôle. Ce sont des échecs de l'amour qui, au final, vont les rapprocher.
Bien sûr. Je raconte ce que Perrault n'a pas raconté. Perrault a l'air de suggérer que quand les deux personnages se rencontrent, ils n'ont jamais vécu d'aventure. Ça n'existe pas. Avant de rencontrer l'amour, nous avons tous vécu des aventures et forcément de graves échecs. Je prétends que ces échecs sont indispensables à la réussite d'un grand amour. Donc, avis à toutes les très jeunes personnes des deux sexes qui sont là. Si vous connaissez des catastrophes amoureuses, ça n'a aucune importance. Sachez que c'est le lot commun. Considérez-le comme des brouillons. Et forcément, les brouillons, on les jette. Donc, si vous connaissez des grosses déceptions, sachez que c'est pour aller vers un grand amour. À cet égard, je pense que nous sommes tous logés à la même enseigne. Nous avons tous vécu quelques catastrophes dont vous vous rappellerez dans 10 ans en riant beaucoup et qui vous permettront d'être un petit peu éduqués quand vous rencontrerez le grand amour.
Et d'ailleurs, on reste dans l'esprit des contes de fées. Il y a toujours des épreuves avant que justement la fin triomphe.
Bien sûr, c'est ça. Les dragons que rencontre le prince dans la Belle au bois dormant, toutes les épreuves des contes, c'est quoi ? C'est les pignoufs qu'on rencontre avant de connaître soit le prince charmant, soit les idiotes qu'on rencontre avant de connaître la princesse charmante. Dites-vous bien qu'il est vraiment... Il arrive peut-être dans 0,01% des cas qu'on rencontre le prince ou la princesse charmante du premier coup. Dans l'immense majorité des cas, on rencontre d'abord beaucoup de pignoufs et beaucoup d'imbéciles. Donc, c'est pas grave. Amusez-vous.
Oui, c'est bien la différence avec la littérature, parce que rien n'est écrit dans la vie.
Oui.
Et là, vous réécrivez des vies de manière calculée, de manière jubilatoire, pour que justement, à la fin, les choses s'arrangent au mieux, exceptionnellement dans votre œuvre quand même.
Oui, mais pas uniquement dans mon œuvre. C'est aussi ce que je dis à la fin de mon livre. À la fin de mon livre, je prends un peu la parole à la première personne du singulier pour dire, voilà, il peut arriver qu'un grand amour donne lieu à un grand bonheur. C'est évidemment pas si fréquent que ça, mais c'est pas si rare que ça non plus.
La preuve Balzac.
Et j'invente la preuve par Balzac. La littérature est un cas particulier. En littérature, il y a une grande loi, c'est que si vous voulez donner lieu à un chef-d'œuvre littéraire, il faut absolument que votre roman, surtout s'il est question d'amour, finisse très mal. Si vous parlez d'amour et que vos héros ne sont pas terriblement malheureux, c'est que vous êtes un écrivain de série Z, c'est que vous écrivez des romans harlequins. La seule justification, la seule excuse de l'amour en littérature, c'est le malheur. Si vos héros ne sont pas très malheureux, c'est que vous écrivez de la littérature de gare. Je me suis demandé pourquoi cette vieille loi sévissait en littérature. Pourquoi la littérature dite de bonne tenue, de bon aloi, devait forcément présenter des amours malheureuses. Et du coup, j'ai fait mes comptes. Je me suis dit, après tout, est-ce qu'il existe des contre-exemples ? Est-ce qu'il existe des romans, des chefs-d'œuvre littéraires qui parlent d'amour et qui se terminent bien ? Alors, j'en ai trouvé quelques-uns. Il y a « Au bonheur des dames » de Zola. Il y a « Le bonheur dans le crime » de Barbey d'Orvilly. Et puis, j'ai pris le cas Balzac, parce que pour moi, 2015 a été l'année Balzac. L'année 2015, je m'étais lancée dans un pari fou. J'avais décidé que toute l'année, j'allais relire toute la comédie humaine. 147 livres quand même. Je me dis qu'avec 147 livres, on a un vrai échantillonnage littéraire. On peut faire des statistiques. Donc, j'ai lu les 147 romans de la comédie humaine. Parmi 147 romans, 135 parlent d'amour. C'est une statistique littéraire très juste. Hein. L'immense majorité de la littérature parle d'amour parce que c'est quand même le sujet littéraire par excellence. Et parmi 135 romans qui parlent d'amour, 6% se terminent bien. Bon, je vous épargne la statistique de ceux qui se terminent mal. Mais moi, ce que j'ai retenu, c'est que quand même 6% se terminent bien. Et bien 6%, ce n'est pas négligeable. Ce n'est quand même pas rien. Et j'ai aimé ce chiffre parce que intuitivement, je trouve qu'il correspond à notre expérience personnelle. Là, en se mettant en dehors du sujet, si on demande à tout le monde, est-ce que vous connaissez des gens amoureux depuis 20 ans, 25 ans et qui sont toujours heureux ? On en connaît tous quand même. Bon, pas beaucoup, mais on en connaît. 6% me paraît un chiffre respectable. Donc, m'étant dit que mes 24 précédents romans ne racontaient que des tragédies, que des horreurs, que des amours qui se terminaient mal, faisant de moi un écrivain tout à fait respectable. J'avais peut-être droit à mes 6% aussi. Donc voilà, mon histoire d'amour qui se termine bien.
Et donc, votre manière de revisiter Rika à la Houppe est également très intéressante parce que dans le conte de Perrault, il y a deux sœurs. Et donc, là, il y a une question aussi qui est intéressante. C'est pourquoi,
que deviennent les deux sœurs.
Voilà, pourquoi
mais le comte de
une seule Trémière.
le conte de Perrault est très troublant parce que c'est vrai que dans le conte de Perrault, il y a deux sœurs, mais il y en a une des deux qu'on abandonne en cours de route. C'est là qu'on voit qu'à l'époque, il n'y avait pas un ou une éditrice qui était derrière l'épaule de l'écrivain en disant « Eh, mais ça ne va pas, vous n'avez pas le droit de laisser tomber un écrivain, un personnage en cours de route. » J'adore ce 17e siècle, ce 18e siècle où il est permis d'abandonner un personnage en cours de route. On se devine bien ce qui s'est passé dans la tête de Perrault. Il raconte les deux sœurs, puis tout à coup, il y en a une qui l'embête. Eh bien, c'est pas grave, il n'en parle plus. Quelle liberté ! On n'a plus le droit de faire ça aujourd'hui. Aujourd'hui, si on n'a plus le droit à la fausse piste. Bon, sachant très bien que mon éditeur ne m'aurait pas laissé abandonner la sœur en cours de route, je n'ai fait de Trémière qu'une seule et même personne. Mais bien sûr, elle est double parce que Trémière est cette extrêmement belle jeune fille que tout le monde prend pour stupide. Mais le lecteur profond de mes livres, et vous en êtes tous, ben ils savent bien que ce n'est pas vrai. Elle est très intelligente, Trémière. Ce n'est pas parce qu'elle ne dit rien qu'elle est bête. Elle ne dit rien parce qu'au contraire, elle est plus intelligente que les autres, parce qu'elle a pris le parti de regarder les gens intensément. Il n'y a rien de plus intéressant que de regarder les gens. Si vous saviez, comme je préférerais me taire là plutôt et vous regarder intensément plutôt que de parler, mais personne ne serait content. Et elle est double, donc, puisque elle a bien compris que tout le monde la voyait comme stupide et elle ne se rebelle pas. Elle sait qu'il faudra qu'elle subisse le destin de ceux qui abusivement sont considérés comme bêtes, mais en son fort intérieur, elle est intelligente. Donc finalement, elle est des deux sœurs à elle-même. J'ai moi-même une sœur dont c'est aujourd'hui l'anniversaire. Et croyez-moi, ma plus grande qualité, c'est que j'ai une sœur, et surtout cette sœur.
Une pensée donc pour elle. Et donc, dans le conte de Perrault, on l'abandonne, c'est vrai, on l'abandonne à sa jalousie d'ailleurs. C'est au moment où elle est jalouse de sa sœur qui était précédemment belle mais stupide.
Vous êtes troublante, intelligente
et laide, mais à qui revenait le meilleur lot d'après Perrault ? C'est celle-là qu'on abandonne à sa jalousie.
C'est très troublant parce que chaque fois que vous me rencontrez, la dernière fois c'était il y a 2 ans, je me dis mais vous voyez à travers moi. Pas du tout parce que je suis une personne jalouse, je suis totalement dénuée de jalousie. Mais parce que je suis en train d'écrire sur la jalousie. La jalousie est un thème extrêmement troublant. C'est une maladie humaine. Je ne sais pas s'il existe des animaux jaloux, mais en tout cas, je sais que c'est une maladie terrible. Et je suis très heureuse de ne pas en être atteinte parce que je connais beaucoup de gens jaloux. Qu'est-ce qu'on peut dire aux jaloux ? Évidemment que la jalousie est une erreur. Mais aller dire à un jaloux qu'il se trompe...
C'est une souffrance d'abord.
C'est d'abord une souffrance. Et c'est un thème effarant. Je ne sais pas s'il existe une guérison possible pour la jalousie. C'est peut-être pour ça que Perrault a abandonné l'une des sœurs en cours de route. C'est parce que qu'est-ce qu'il peut faire de la sœur jalouse ? C'est affreux. Ne soyez pas jaloux, c'est une erreur. On est toujours jaloux pour une mauvaise raison. On est jaloux parce qu'on suppose que les autres ont plus que nous, mais on ne voit pas ce qu'on a. Quand on est jaloux, on ne voit pas que les autres nous jalousent. On a toujours quelque chose que les autres n'ont pas. Et puis, être jaloux, ce n'est pas la bonne façon d'obtenir ce que les autres ont. Je ne sais pas comment on fait pour obtenir ce que les autres ont, mais pourquoi faut-il l'obtenir aussi ? Nous avons certaines caractéristiques. Personne ne boit le champagne aussi bien que moi. Donc, voilà.
Et alors, dans votre Riquet à la houppe, c'est aussi une réflexion justement sur les lots, le lot que chacun reçoit à la naissance et les injustices de ces lots, mais aussi ce qu'on peut en faire. Et comme vous le dites, rien n'est jamais perdu.
Bien sûr.
Et ici, exceptionnellement, mais ça peut arriver, donc ça se termine très très bien.
Je pense que la raison pour laquelle les personnages de Perrault qui deviennent les miens s'en tirent bien, miraculeusement, c'est vrai, conte de Perrault et un roman d'Amélie Nothomb qui se termine bien. Pourquoi est-ce que ça se termine bien alors que c'était si mal parti ? D'abord parce qu'ils acceptent leur sort sans s'en plaindre, mais surtout parce qu'ils font preuve d'esprit. Ils se disent, bon, tout ne va pas bien, mais c'est pas grave. Prenons les choses avec élégance, prenons les choses avec légèreté. Vertu française, je sais de quoi je parle, je ne suis pas française. Je viens d'un pays où il y a peu de légèreté. Nous avons beaucoup de qualités en Belgique, mais la légèreté, nous avons encore beaucoup d'efforts à faire pour y arriver. C'est une des principales choses qui m'a frappée quand je suis arrivée en France il y a un certain nombre d'années, c'est vous êtes des gens légers. J'essaye d'apprivoiser cette belle vertu qui fait qu'on peut passer au travers des pires catastrophes avec élégance. C'est ça, la grande morale de Perrault, c'est vivez les catastrophes avec légèreté et avec élégance, moyennant quoi elles ne vous atteindront pas.
Et alors, sur l'esprit dont vous parlez si bien, Perrault aussi, évidemment, en est l'illustration, bien sûr, à son époque, mais votre roman est un roman d'aujourd'hui, et il y a aussi cette réflexion très, très pertinente sur l'intelligence, ou sur l'idiotie intelligente, ou l'intelligence idiote. Il y a des pages, des points de vue très savoureux là-dessus, et je pense qu'il faut que vous en parliez un petit peu.
Vous avez tout à fait raison. Nous vivons quand même une époque très déprimante, qui trouve un moyen de victimiser toutes les situations. La mode est à la victimisation. Quel que soit votre statut, vous aurez une excellente raison de vous inscrire au prix de la plus grande victime de l'année. Même et surtout si vous êtes supérieurement intelligent. Ça, c'est quand même la dernière trouvaille de notre époque. C'est que si vous êtes très intelligent, c'est un drame. Si vous êtes un enfant surdoué, qu'est-ce que vous souffrez? Et si vous souffrez, c'est bien. J'ose en parler parce que c'est une chose que j'ai vécue. Je vous rassure, c'est une chose totalement passée. Mais j'ai été une enfant supérieurement intelligente. Ça, c'est tout à fait guéri, rassurez-vous, je suis devenue tout à fait crétine entre-temps. Mais j'ai été une enfant surdouée. Et honnêtement, je vous le dis, c'était pas affreux du tout. Ça m'amusait beaucoup. Ça m'amusait beaucoup, c'était pas du tout une tragédie, c'est pas vrai que c'est une souffrance. Pourquoi est-ce qu'il faut aujourd'hui que toute différence soit vécue comme une tragédie? C'était une différence, ce n'était pas une tragédie. Donc, nous avons tous une différence vue aujourd'hui comme tragique. Cessez d'y voir un drame, c'est très bien. Moi, je regrette le temps où j'étais intelligente, maintenant que je suis une pauvre vieille alcoolique belge. Et heureusement, enfant, je le vivais bien. Je voyais déjà que le processus était en cours, parce que j'étais juste à l'époque où le processus de victimisation était en cours, où il était bien vu d'être vu comme une victime de la société pour être quelqu'un de bien. Mais non, c'est très bien d'être intelligent, en fait. Et quoi qu'il vous arrive, soyez sûr que c'est très bien. C'est très bien d'être très beau, là je ne parle pas du tout d'expérience, c'est très bien d'être très drôle, c'est très bien d'être... Toutes vos différences sont bienvenues. Surtout, n'enrougissez pas. J'ai rencontré aujourd'hui beaucoup de gens que je ne connaissais pas, qui me frappent par leur exceptionnalité. J'espère que vous savez que votre exceptionnalité ne fait pas de vous des victimes. Au contraire, ce sont des privilèges, donc exploitez-les. Je ne sais pas pourquoi nous vivons une époque où la souffrance est si bien vue. Honnêtement, la souffrance, c'est idiot. Vous savez pourquoi c'est idiot? Parce que ça nous arrive à tous. Il n'y a aucun effort à faire pour souffrir. Il suffit de vivre. De toute façon, il y a un moment où on souffre. Soyez-en sûrs. Donc, cultivons le bonheur, c'est beaucoup plus intéressant.
Quelle leçon! Alors, à propos de leçons, il y a aussi celle que vous faites sur l'école et sur la manière dont l'école passe à côté de l'essentiel. En tout cas, il y a une satire assez féroce de l'école dans votre roman, dès le début.
Bon, je ne suis pas professeure, donc je sais qu'il y a ici quelques personnes qui sont professeurs ou qui travaillent dans des établissements scolaires, des lycées, ou qui s'apprêtent à être instituteurs, professeurs des écoles. Déjà, je vous félicite. Mais l'idée de l'école, c'est... Voilà, ça doit être très difficile. Je ne sais pas si je serais capable d'être un bon professeur. Il me semble que le bon professeur est celui qui trouve son élève très bien, quel qu'il soit, et qui ne cherche pas à lui dire « Non, ce que tu vis est affreux », qui, quoi qu'il vive, lui dit « Mais ce que tu vis est très intéressant ».
Ce qui nous frappe dans votre livre, d'Henri Calaoupe, c'est la vision par les yeux de l'enfant, enfin des deux enfants du coup, hein, votre Riquet qui ne s'appelle pas Riquet et à qui vous avez donné un prénom dont vous avez le secret.
Déodat, oui.
Déodat, voilà, il faut le trouver. Et donc ce Déodat, ce cadeau des dieux ou de Dieu, il est doté d'une sacrée différence. Et donc, à l'école, il détonne aussi. Et du coup, il pose problème. Ses camarades le martyrisent un petit peu. Les professeurs ne savent pas trop quoi penser de lui. On convoque les parents. Les parents ont presque honte. Enfin, il y a des scènes pénibles, quoi, et qui reflètent finalement une réalité. C'est cette inadaptation, quelquefois, de l'école, justement, au cas particulier.
Mais l'école n'est que le reflet de notre société. On vit une époque où le mot d'ordre est l'acceptation et la glorification de la différence. C'est tragique parce que c'est exactement le contraire de ce qui se passe. Aucune époque n'a autant glorifié la différence qu'aujourd'hui et aucune époque ne l'a aussi mal acceptée qu'aujourd'hui. Oui.
Et c'est cette incohérence-là que vous
Cette incohérence me frappe. Il n'y a jamais eu de si grand divorce entre le mot d'ordre et ce qui se passe vraiment. On est l'époque de l'hyper-normalisation. Et on parle de différence, mais au moins dans mon livre, je parle de différence tragique. L'extrême laideur, l'extrême beauté, l'extrême bêtise, l'extrême intelligence. Mais au moins, ce sont des extrêmes. Mais la vérité est bien pire que ça. La vérité est que dans notre société, même les plus petites différences conduisent à des tragédies. Tous les jours, je reçois des paquets de courriers de gens qui me racontent leurs souffrances. Et l'immense majorité des souffrances des gens viennent du fait qu'ils sont différents. Mais c'est ça qui m'épouvante, c'est que ces différences qui sont à l'origine de la tragédie de la vie des gens ne sont rien. Des gens sont mis au banc de la société pour des différences insignifiantes parce qu'ils se mouchent dans des mouchoirs en tissu plutôt que de se moucher dans des mouchoirs en papier. Je ne plaisante pas. Une jeune femme m'a écrit une lettre entière pour me raconter sa tragédie qui venait entièrement de ça. Si je la cite, c'est pour dire si une telle tragédie peut naître d'une chose aussi insignifiante, imaginez des tragédies nées de différences plus importantes que celle-là.
Et ça commence à l'école, parce que la cruauté des petits camarades, elle est terrible à lire, hein, aussi oui. bien pour Déoda que pour Trémière.
Oui, et nous l'avons toutes connue, parce que à l'adolescence, enfin, il y a forcément un moment où nous sommes différents. Moi, je suis arrivée en Belgique, j'avais 17 ans, j'étais différente, forcément, je n'étais pas belge, et tout en étant belge, et j'arrivais d'Extrême-Orient, donc je ne m'habillais pas comme il fallait, je ne parlais pas comme il fallait. Donc, j'étais différente et j'ai vécu le martyre parce que les jeunes sont aussi intolérants que les autres. Et si vous n'êtes pas exactement comme les autres, vous êtes cloche, vous êtes la risée du cours, etc. Donc, j'ai vécu cette exclusion bien commune et c'est une vraie souffrance. C'est certain, c'est une vraie souffrance. Je pense que nous sommes très nombreux à l'avoir vécu.
Alors, heureusement, en tout cas du côté de Trémière, il y a un personnage très protecteur qui est la grand-mère.
Oui.
Et qui joue un rôle fondamental que vous ajoutez aussi au conte, évidemment.
C'est ma bonne fée. Bien sûr, dans les contes, il y a toujours une fée. Dans Riquet à la houppe, il y a une fée. Chez moi, la fée, ça devient la grand-mère. Je me suis demandé comment incorporer une fée au monde moderne de façon crédible. Je me suis dit qu'une grand-mère, c'était possible. Et de ma part, c'est une expérience purement fantasmée. Car malheureusement, j'avais, comme tout le monde, deux grand-mères. Et la gentille est morte quand j'avais 3 ans. Donc, je n'ai pas bien connu la fée. Celle qui est restée en vie, c'était l'exceptionnellement méchante.
La sorcière.
La sorcière. Donc, j'ai très, très, très bien connu la sorcière. Ma grand-mère était celle qui a survécu, c'est bien connu, ça conserve, était en Belgique une méchanceté célèbre. Donc, les sorcières, ça existe, en fait. Donc, si les sorcières, ça existe, c'est que les fées, ça existe. Voilà, à vous d'examiner vos grand-mères. Vous en avez toutes au moins deux, tous au moins deux. Qui est la fée, qui est la sorcière? Qu'est-ce qu'elles vous ont apporté?
Oui, et donc, dans cet univers, finalement, les parents sont un petit peu palos. On a l'impression...
C'est difficile de faire le poids face à une sorcière ou une fée. Hein.
Oui. C'est ça. Et même face aux enfants, parce que ce qui domine quand même, c'est le regard enfantin. Et là, vous êtes très, très forte. Hein. Et depuis longtemps, dans beaucoup de vos œuvres précédentes, qu'il s'agisse de la métaphysique des tubes ou d'autres livres encore, on voit le monde dès la naissance quasiment. et vous donner une voix à l'enfant, l'infant, celui qui n'a pas normalement de langage. Et vous faites parler les deux personnages, vraiment, dès l'origine, ils s'expriment et on connaît leur univers de l'intérieur. Et ça, c'est très, très fascinant aussi.
Vous savez, j'ai une caractéristique, la seule vraie caractéristique différente que j'ai, c'est que je me souviens très, très bien de ma petite enfance. Et je me demande comment j'ai fait pour continuer à vivre alors que je me souviens si bien de qui j'étais. Il a fallu que je m'adapte, que je devienne une personne tout à fait fréquentable. Alors vous en avez tous témoigné, je suis une personne tout à fait fréquentable. Alors que je me souviens si bien comment j'étais et que... Bon, moi, je n'ai pas d'enfant et je n'en aurai pas. J'ai un frère qui a 7 enfants. Donc, je suis tante, abondamment tante. Et au dernier Noël, donc il y avait la plus jeune de mes nièces qui avait 7 ans. Vous ne serez pas étonnée d'apprendre qu'à Noël, j'avais trop bu à un moment. Je suis tombée dans le canapé en disant « je meurs ». Ma nièce de 7 ans est arrivée en courant en disant « oh, meurs, vas-y !» Et je me suis dit, c'est fou l'enfance, quoi. Je meurs sous ses yeux, elle trouve ça génial. Et elle veut voir le phénomène de sa tante qui meurt. Bon, finalement, j'ai survécu. Mais bon, c'est vrai, l'enfance, c'est ça. C'est la tante qui dit qu'elle meurt et c'est génial. On va voir la tante Amélie qui meurt, quel événement. Et c'est... Comment on fait pour devenir des gens civilisés alors qu'on a été des tels barbares qui se réjouissaient de la mort de tante Amélie, quoi. C'est tout à fait fascinant.
Oui, c'est ça. On découvre de l'intérieur des personnages vraiment fascinants, quoi. Et ça, c'est très exceptionnel.
Oui.
Et vous avez une chance exceptionnelle, je pense, de vous souvenir de votre toute petite enfance. C'est très rare.
Oui, mais oui. Et à la fois, c'est bien sûr une énorme chance, et à la fois, c'est... Il y a beaucoup de jours où c'est très dur parce que beaucoup de jours, je me demande pourquoi ce n'est plus comme ça.
Nostalgie ?
Oh oui, et puis nostalgie, je sens que tout est resté en moi. Je pourrais encore réagir comme ça. Je ne le fais pas, mais bien sûr, beaucoup de choses se sont passées entre-temps. Mais tout le matériel est là pour avoir toujours des réactions d'une barbarie sublime telle que « Oh, tante Amélie, tu meurs, mais vas-y, 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 vas-y !» Je comprends très bien une telle réaction.
Oui, on voit bien le cheminement des personnages, c'est celui de l'adaptation.
Oui.
Prenons le personnage de Trémière, par exemple, elle est contemplative, elle est sage, mais rien ne lui échappe.
Oui.
Et finalement, elle cherche à s'adapter ou à résister, ça dépend. Tantôt, elle subit, par exemple, ses petits camarades, bon, elle les subit dans les jeux les plus cruels. Et tantôt, au contraire, elle s'affirme, notamment quand elle est avec sa grand-mère, elle n'hésite pas à s'affirmer avec beaucoup de vigueur. Et c'est ce qui fait finalement le dénouement heureux. C'est grâce à cette posture que lui a transmise sa grand-mère.
C'est affreux de grandir, n'est-ce pas ? Parce que grandir, ça suppose qu'on mette de l'eau dans son vin. Mmh. Ça suppose qu'on ne se réjouisse pas de voir tante Amélie mourir en direct. Ça suppose qu'on devienne fréquentable. Mais je fais le pari qu'on est tous pareils, c'est-à-dire qu'on n'a pas oublié, qu'on se souvient très bien quel effet ça faisait d'avoir 7 ans et de se réjouir de la mort des oncles et des tantes et de devoir apprendre après de simuler le chagrin quand tante Amélie meurt vraiment.
Alors là, permettez-moi justement de ne pas être d'accord et de trouver que c'est un intérêt absolument majeur de vos livres que de redécouvrir justement ce temps de la jeune enfance et les réactions qu'on a plus du tout et qu'on imagine même plus du tout. Parce que ce sont des réactions à la fois très spontanées, très, très franches, et aussi quelquefois des preuves d'intelligence. Hein. Vous parlez des idiots intelligents. Ben, ce sont les gens qui, justement, se sont très, très bien adaptés à la société telle qu'elle les souhaite et qui les privent de la vraie intelligence, au final.
Aucune époque n'a autant déshonoré l'intelligence que la nôtre. Voilà, l'intelligence maintenant est vue comme un phénomène mesurable. C'est ce qu'on appelle le quotient intellectuel. Je ne connais pas de pire hérésie que le quotient intellectuel. Je ne dis pas que ça n'existe pas, je ne dis pas que ça ne correspond à rien. Je dis que considérer ça comme l'unique définition de l'intelligence, c'est vraiment faire une insulte à l'intelligence qui est incalculable. Nous connaissons tous des gens qui ont un quotient intellectuel supérieur et qui sont à la fréquentation des débiles profonds. Nous connaissons tous des gens d'un quotient intellectuel extrêmement moyen qui sont des gens fins et intéressants et que nous aimons revoir. Ça ne signifie pas là encore que le quotient intellectuel ne corresponde à rien. Ça signifie que le quotient intellectuel mesure une seule sorte d'intelligence qui n'est pas forcément celle qui nous intéresse. Et c'est terrible parce qu'aujourd'hui, on ne mesure que celle-là. Et imaginez les dégâts que ça produit. Une personne dont on a mesuré le quotient intellectuel et qui est vue comme à peu près stupide va en concevoir un tel complexe qu'elle va vivre toute sa vie comme étant stupide, alors qu'elle sera tout à fait bien. Et inversement, un crétin absolu à qui on aura diagnostiqué 170 de quotient intellectuel va se vivre comme un être supérieur alors qu'il en sera toute sa vie, disons-le, quelqu'un d'extrêmement embêtant. Et vive Perrault. Chez Perrault, il n'est pas question d'intelligence, il est question d'esprit. J'aime tellement plus cette notion. L'esprit n'est pas mesurable. Nous savons tous ce que c'est de rencontrer quelqu'un qui a beaucoup d'esprit. Nous aimons les gens qui ont de l'esprit. Ils sont agréables à fréquenter. Il y a quelque chose qui se passe quand on rencontre quelqu'un qui a de l'esprit. Quand on rencontre des gens qui ont 180 de quotient intellectuel, il se passe rarement quelque chose, honnêtement.
Oui, et l'esprit, il se révèle en société, en conversation en particulier.
Mais bien sûr, quelle est la caractéristique principale de l'espèce humaine ? Nous sommes une espèce sociale. Plus que toutes les autres espèces, nous sommes une personne qui a besoin de ses semblables. Vous savez, la pire souffrance qu'on puisse infliger à un être humain, c'est de l'isoler, de le mettre en prison, qu'il n'ait plus l'ombre d'une conversation, d'une rencontre humaine. Nous avons tellement besoin de quelqu'un qui nous parle, de quelqu'un qui nous rencontre. Je sais de quoi je parle, j'ai été seule pendant tant d'années de ma vie. Donc voilà, bien sûr que la principale intelligence, que celle qui nous intéresse le plus, c'est celle qui consiste à être capable de rencontrer les autres. J'appelle ça le sens de l'autre. J'appelle ça avoir eu tellement faim de l'autre qu'on est capable de comprendre la langue que parle l'autre, quel que soit l'autre.
Alors cette curiosité de l'autre que vous démontrez dans chacun de vos romans, mais aussi dans votre façon d'être avec vos lecteurs, que ce soit de manière épistolaire ou bien en direct comme ce soir, contrairement à ce que dit Perrault, dans sa morale, notamment celle de Barbe Bleue, la curiosité est un vilain défaut. Là, vous n'êtes pas du tout d'accord.
Mais les morales de Perrault, je suis sûre que c'est du second degré. Écoutez, dans Le Petit Chaperon Rouge, je le rappelle, Le Petit Chaperon Rouge, chez Perrault, finit manger. Il n'est pas sauvé par un chasseur, il reste dans le ventre du loup. Et la morale de Perrault, c'est ne parlez pas aux inconnus. C'est rigolo quand même. C'est l'air de dire, si vous parlez aux inconnus, vous finirez manger. Bon, je soupçonne Perrault d'être extrêmement au second degré dans les morales qu'il donne. Alors, principalement dans la morale concernant la curiosité. La curiosité est un vilain défaut. Qui peut croire ça ? Mais bien sûr que non. La curiosité, il ne faut pas confondre curiosité et indiscrétion. Nous avons tous horreur des gens indiscrets. Mais la curiosité qui consiste à être face à quelqu'un qui vous regarde avec des grands yeux, en l'air de dire « Mais qui es-tu ? Mais je veux te connaître !» Mais c'est le bonheur ! Donc, vive la curiosité ! C'est une qualité dans le rapport humain qui est exceptionnelle. C'est une qualité face à la connaissance qui est exceptionnelle. Enfin, on sait tous ce que c'est de rencontrer quelqu'un qui n'a pas envie de vous connaître. Est-ce que c'est vraiment une vertu, ces gens qui n'ont pas faim de vous ? Mais bien sûr que non ! Vive la faim, vive l'appétit, vive la curiosité. C'est grâce à ça que nous nous écoutons les uns les autres avec passion. C'est parce que mais je suis comme ça face à vous, et pourtant je ne suis pas le grand méchant loup, mais j'ai envie de vous connaître. Et voilà, il y a un mur de différence entre la curiosité et l'indiscrétion. Je suis sûre que Perrault le sait, mais voilà, différencions les termes.
On l'a quand même beaucoup utilisé pour l'éducation des jeunes filles.
Oh mon Dieu. Bon, alors ça, c'est un sous-chapitre de la question. Je veux croire que nous en sortons, mais évidemment, être une fille empire les choses. Une jeune fille n'a jamais faim. Vous m'avez vu tout à l'heure avec le chocolat. Une jeune fille ne boit pas, sans commentaire. Et une jeune fille n'a pas de curiosité. Et voilà comment on devient Amélie Nothomb, c'est-à-dire le contraire de ces trois caractéristiques.
Et dans Ricky Alloub, il y a aussi ce jeu justement sur les stéréotypes de genre, notamment dans les relations amoureuses. Celui qui souffre et celui qui fait souffrir, ce n'est pas toujours, contrairement à ce qu'on pense dans les stéréotypes, l'homme qui est indifférent et la femme qui se traîne à ses pieds. Ça peut aussi être l'inverse. Et
c'est Mais bien sûr.
C'est vécu avec Saskia dans le roman.
Mais bien sûr. Alors là aussi, encore un lieu commun qui est la vie dure. C'est la femme qui est dans la situation de mendicité parce qu'elle attend l'homme. Voilà, et si l'homme, quel qu'il soit, daigne s'intéresser à elle, alors on ne fait pas la difficile. Hein. Un homme s'intéresse à moi, c'est formidable. C'est pas, surtout, n'en déduisez pas ce qu'il ne faut pas en déduire. Je suis très heureuse en amour, tout se passe bien. Mais j'ai connu de nombreuses situations où c'était le contraire, où c'était... Et puis moi, j'aime bien. J'aime bien qu'un homme soit au pied d'une femme. C'est beaucoup plus beau. N'est-ce pas, Claude? Où êtes-vous, Claude?
Je crois que nous sommes nombreuses à...
Claude est parti.
À le ressentir ainsi.
Claude était tellement à genoux qu'il est parti.
Alors, non seulement vous vous intéressez à l'espèce humaine, ô combien, mais il y a aussi, dans Ricky Alloub, un intérêt très grand pour les oiseaux.
Ah oui.
Alors, d'où vient cette...
Ça, c'est vraiment... C'est la chose la plus personnelle que j'ai mise dans ce roman. Je pense que c'est vraiment l'histoire de ma vie. Jusqu'à l'âge de... Enfin, depuis ma naissance, jusqu'à maintenant, j'ai été obsédée par les œufs. Au dernier degré. Ça ne s'est jamais arrêté. Une autre obsession est venue se greffer sur cette obsession des œufs. À partir de l'âge de 11 ans, j'ai été obsédée par les oiseaux. C'est très cohérent. L'œuf a éclos. J'ai continué à être obsédée par les œufs, mais aussi par les oiseaux. C'est très fascinant. Nous ne sommes, oui, bon, bien sûr, d'une certaine façon, nous sommes tous nés d'un œuf, mais souvent, ça ne se voit pas. Voilà. Ce qui est fascinant, c'est de penser qu'à la base, nous étions tous la même bestiole et qu'à un moment très ancien de l'évolution, l'un de nos ancêtres a choisi de voler et pas nous. Ça, c'est pour moi la chose la plus intéressante qui se soit jamais produite. Nous sommes cette pauvre espèce qui a choisi le sol. C'est facile de choisir le sol. Hein. Alors qu'une espèce qui était la même que nous, qui descendait des dinosaures, a choisi de voler. Rien ne lui permettait de voler. On admire beaucoup les premiers aviateurs. On a raison, ils sont admirables. Mais au moins, les premiers aviateurs, ils avaient une machine pour y arriver. Les dinosaures qui ont choisi de s'aventurer dans le ciel n'avaient même pas une machine. Ils n'avaient que leur corps. Et ils ont quand même décidé de voler. Vous imaginez les centaines d'années, les millénaires de tragédies qu'il a fallu pour que ça donne un oiseau? Eh bien, ça a quand même marché. Il existe combien de sortes d'oiseaux aujourd'hui? Et des oiseaux qui sont tout à fait réussis, qui sont une espèce qui vit en même temps que nous, sur la même planète, et qui nous donne tout le temps l'exemple de ce que nous aurions pu devenir si nous n'avions pas été si pesants. Je pense que ce n'est pas un hasard si ça m'obsède à ce point. Mon animal totémique, c'est l'oiseau. C'est ce que j'aurais voulu être. Mon rêve récurrent, c'est que je vole. Je bois, je crois, pour arriver à voler un jour. Une fois par semaine, je rêve que je vole. Le rêve est toujours le même. C'est que j'ai trouvé la technique pour parvenir à voler et que cette technique, finalement, c'est pas si difficile. Il suffit d'un geste, il suffit d'une gymnastique pour parvenir à s'élever dans le ciel. Et chaque fois que je fais ce rêve, c'est la même excitation. Je me dis, mais cette fois-ci, Amélie, tu l'as trouvé. Donc, quand tu te réveilleras, parce que je sais que je rêve, tu feras ce geste et tu t'envoleras. Et chaque fois que je me réveille, je dis, cette fois-ci, je m'en souviens. Et chaque fois, je fais le geste et ça ne marche pas.
Mais je crois, Amélie Nothomb, que vous avez tout de même deux caractéristiques de l'oiseau, vous-même.
Je mange beaucoup.
Non. comme l'oiseau vole au-dessus des frontières, vous volez aussi par la langue qui se moque des frontières. Et comme l'oiseau chante, vous avez aussi votre musique, toujours par la langue.
Vous ne savez pas le compliment que vous me faites. Je pense que les oiseaux nous ont tout appris, à commencer par le chant. Le chant des oiseaux, c'est vraiment un phénomène exceptionnel. Je pense que si nous parlons et si nous faisons de la musique, c'est parce que nous essayons d'imiter l'oiseau, sauf qu'on le fait de façon double et bancale, parce que nous avons eu besoin de différencier le langage et la musique, alors que les oiseaux n'ont pas eu ce besoin. Si les oiseaux savaient que chez nous, il existe des querelles entre le fond et la forme, ils se diraient, mais ils sont débiles, ces gens. Comment est-ce qu'on peut faire des querelles entre le fond et la forme, alors que c'est la même chose ? C'est certainement un langage. Et mes deux espoirs, ce n'est pas seulement, bien sûr, je veux voler, et j'y arriverai, mais c'est aussi, je veux trouver un langage qui réunisse parfaitement le fond et la forme. Voilà ce que j'essaye de faire à travers mes petits bouquins.
Merci Amélie Nothomb.